Chapitre 5, qui est le grand serment sur la montagne, ce qu'on appelle de Jésus. Merci. C'est le premier discours du nouveau, du plus grand et du dernier prophète qui donne sa théologie, sa méthodologie, sa philosophie de vie. Et c'est le plus grand, c'est le premier donc des serments du Nouveau Testament. Et je vous invite à suivre dans vos Bibles pendant que je vous lise à partir du verset 11 jusqu'au verset 16 qui seront notre texte. Matthieu 5, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16, écoutons les paroles de notre Seigneur. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Ceci est la parole de Dieu. Alors, vous noterez que la dernière des béatitudes se trouve juste avant notre texte, au verset 10. Regardez-le. Elle dit ceci, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Et puis, le verset 11 qui débute notre texte commence encore avec le même mot que les 8 versets précédents, « Heureux ». Et continue le même thème de la dernière béatitude, c'est-à-dire le thème de la persécution. Il dit verset 11, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, etc. » Donc c'est un enchaînement progressif, c'est une transition entre cette première partie de son serment qui contient des courtes phrases déclaratives, heureux les, puis mentionne un certain type de personnes, car ils, et ils définissent des courtes phrases, les béatitudes, et puis une application directe à ses disciples. Et donc Jésus commence son serment avec plusieurs aphorismes, plusieurs propositions concises qui contiennent des vérités fondamentales qu'on appelle les béatitudes. Et puis, il commence maintenant à développer et appliquer ces vérités aux vies de ses disciples. Il va donc du troisième personne, peut-être vous l'avez noté, hein, heureux ceux qui sont, c'est la troisième personne là, du pluriel. Heureux ceux qui sont persécutés, verset 10, pour la justice, car le royaume des cieux est à eux, à encore la troisième personne, comme pour toutes les béatitudes. Et il passe maintenant à la deuxième personne. Heureux serez-vous. Au lieu de eux, maintenant il applique à ses disciples. Vous, lorsqu'on vous outragera, réjouissez-vous, verset 12, verset 13, vous êtes le sel de la terre, verset 14, vous êtes la lumière du monde, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Donc voici une des raisons pour laquelle je pense que les versets 11 et 12 vont avec les versets 13 à 16 et on les traite comme un seul texte ce matin. Et ces versets ont une même application personnelle. Vous, au lieu de « il », une même application personnelle. Et puis, la deuxième raison pourquoi je pense que tout ça forme un seul texte, du verset 11 au verset 16, c'est qu'ils ont un seul thème de distinction entre vous et le monde. Il y a ce thème de distinction et de différence qui est très clair, bien sûr, au verset 11 et 12. Hein. Il y a vous qui êtes persécutés, et puis il y a ceux qui vous outragent et qui vous persécutent. Là, la distinction est très claire. Au verset 13, il y a vous qui êtes le sel, et puis il y a le terre, et ce ne sont pas la même chose. Et puis, au verset 14 et 15, il y a vous qui êtes la lumière du monde, et puis il y a le monde sur lequel vous luisez ou sur lequel vous réfléchissez la lumière. Donc, le titre que j'ai choisi pour ces versets, c'est « La vie distinctive du disciple ». La vie distinctive du disciple. Et nous allons voir que le disciple est distinctement traité, il est distinctement différent, et puis il est distinctement visible. Alors, le premier point, donc, qui englobe ces deux premiers versets 11 et 12, c'est que le disciple est distinctement traité. Il est distinctement traité. Mais dans quel sens? Dans quel sens? On pourrait se dire, si on réfléchissait, mais celui qui incarne les béatitudes, il sera sans doute honoré, respecté, estimé, vénéré peut-être. Mais ce n'est pas sans signification que Jésus passe directement d'une description de ceux qui sont vraiment heureux au traitement que ces bienheureux reçoivent de la part du monde. Vous voyez cela dans lequel ils vivent. Voici les gens bienheureux que Jésus décrive ici sont traités distinctivement. Et comment décrire ce traitement qu'ils reçoivent? Eh bien, nous voyons que c'est un traitement injuste. C'est un traitement injuste. Regardez encore les versets 11 et 12. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Outragera, vous voyez ce mot? C'est d'avilir ou dénigrer l'autre en l'accablant de fautes. Ce même mot est utilisé pour décrire ce qu'ont fait les deux criminels qui ont été crucifiés de l'un et de l'autre côté de Jésus quand il était sur la croix. En Matthieu 27, 44, disait qu'il s'est traduit « l'insulter ». Et notez qu'il dit « on dira faussement ». De vous, toutes sortes de mal. Notez ce mot, faussement. Voici le traitement auquel nous pouvons nous attendre. Pierre dit, dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 14, « Si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. » Il dit un peu plus loin, verset 17, « Il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien » qu'en faisant le mal. En effet, il dit que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais il faut s'attendre que vous allez souffrir injustement pour la cause de Jésus-Christ. C'est un traitement injuste. Il faut s'attendre à cela. On est souvent choqué. Comment pourrait quelqu'un pourrait-il nous traiter injustement? Mais c'est notre lot dans la vie. Et ce n'est pas irréconciliable avec le fait d'être heureux. En fait, Jésus dit, ceux qui sont heureux sont ainsi traités. C'est un traitement juste, mais pas sans cause. Hein. Nous voyons que cette déclaration de bénédiction est liée à deux choses. Il y a une cause et il y a une fin. Nous voyons que c'est un traitement motivé. Regardez le verset 11. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. » Qu'est-ce qu'il dit à la fin du verset ?« À cause de moi. » Voilà la motivation derrière ce traitement injuste. C'est Jésus-Christ. Encore un Pierre qui parle de ceci, il dit « Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous, que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. » Et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. C'est une bénédiction de pouvoir souffrir pour Jésus-Christ. Vous connaissez peut-être John Bunyan qui a écrit Le Voyage du Pèlerin. Il a écrit en prison et parce qu'il prêchait l'Évangile et ceci en fait était illégal à l'époque. Il n'avait pas le droit, il n'avait pas le permis de l'État pour être prédicateur. Et donc, chaque fois qu'il se réunissait pour prêcher, la réunion devenait illégale et hors la loi. Et il était recherché. Et puis un jour, les policiers sont arrivés là, dans la grange où il prêchait, sont venus l'arrêter pour avoir prêché dans cette réunion illégale. Et il a dit ceci, c'est au XVIIe siècle, il a dit « C'est une miséricorde de souffrir pour une si bonne cause, car nous aurions pu être appréhendés en tant que voleurs ou assassins ou pour d'autres méchancetés. Mais béni soit Dieu, n'en fut pas ainsi, mais nous souffrons en tant que chrétiens et d'avoir bien fait. » Et puis il a passé plus de 12 ans en prison. Un autre pasteur du XVIIe siècle en Écosse, il a écrit ceci dans une lettre, parce que lui aussi il était persécuté pour sa foi. Il a dit « Quant à moi, quand je pense aux dispensations de Dieu, c'est-à-dire à la façon que Dieu dispense de lui, agit dans sa vie, il aurait pu dans sa justice apporter à la lumière mes abominations invisibles et secrètes. Ce qui aurait apporté beaucoup de reproches au saint nom et aux précieuses vérités du Christ. Mais dans sa miséricorde, il a couvert ces choses. Il a préparé, il a taillé des causes plus honorables de souffrance dont nous sommes indignes. » Je ne sais pas si vous suivez sa pensée, il a dit « Dieu aurait pu me faire souffrir pour tous mes péchés en fait. J'ai assez de péchés dans ma vie pour suffire à beaucoup de souffrances. Mais dans sa grâce, Dieu a couvert ces choses et il me donne des causes beaucoup plus nobles pour lesquelles je peux souffrir pour lui et pour sa gloire. » Ça aussi, c'est une bénédiction, une façon de voir les souffrances que Dieu nous donne, qui nous permet pas simplement de souffrir pour nos propres fautes, ce que nous mériterons, mais de souffrir pour lui, pour son nom, pour sa gloire. C'est une bénédiction pour laquelle nous pouvons le remercier. Alors je vous pose la question, est-ce que je pourrais vous dire une telle chose? Vous êtes heureux ici si vous souffrez à cause de moi. Est-ce que l'apôtre Paul aurait dit une telle chose? Est-ce que l'apôtre Pierre aurait osé dire une telle chose? Vous êtes heureux si vous souffrez pour moi, Pierre. Jésus ne dit pas ceci. Il ne dit pas « Nous sommes heureux si nous souffrons ensemble pour la bonne cause. » Voilà, il y a des gens qui essayent donc « On souffre pour la bonne cause. » Jésus dit « Vous êtes heureux si vous souffrez pour la bonne personne. » Pour moi. Et nous voyons dans ce sermon qu'il révèle, entre autres, ce que Jésus pense de lui-même. Il pense que vous êtes plus heureux à souffrir à cause de lui qu'à ne pas souffrir sans lui. Il dit, vous êtes plus heureux à souffrir pour moi qu'à ne pas souffrir sans moi. C'est la vue de Jésus de lui-même. Et c'est encore plus remarquable quand nous notons la comparaison qui est faite à la fin du verset 12. Vous le voyez, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Les prophètes ont souffert à cause du fait qu'ils représentaient Dieu, l'Éternel. C'est dit plusieurs fois, Moïse le dit, par exemple, c'est « Vous ne plaignez pas contre moi, contre Dieu ». Et Moïse a souffert, Jérémie a souffert, Ésaïe a souffert. Pourquoi ? Parce qu'ils annonçaient la parole de Dieu. C'est à cause de Dieu l'Éternel que ces prophètes ont souffert. Romains 8, 36 cite le psaume 44, verset 23, qui dit « Mais c'est à cause de toi, c'est-à-dire toi l'Éternel, qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » Le psaume est adressé à Dieu l'Éternel. Mais Jésus dit en somme ceci. Si vous êtes persécutés pour moi, vous êtes dans la même situation que les prophètes qui ont été persécutés pour l'Éternel Dieu. Ils ont souffert pour Dieu, vous souffrez pour moi, et vous êtes dans la même situation. Vous connaissez et vous aurez exactement la même récompense. C'est-à-dire, si vous souffrez pour moi, vous aurez la même récompense que les prophètes qui ont souffert pour Dieu le Créateur. Nous voyons donc la pensée que Jésus avait de lui-même. Il ne peut pas être un simple homme, même pas un simple prophète. Il parle des prophètes qui ont souffert. Mais il se considère comme étant plus grand que tous ses prophètes. C'est le Fils de Dieu. C'est Dieu le Fils. Mais il dit aussi, troisièmement, par rapport à ce traitement, que c'est un traitement récompensé. Quelqu'un dit, bon, je veux bien suivre le chemin du bonheur. Mais quand j'arrive à la fin de ces béatitudes, je vois que ça mène à la souffrance. Je ne suis pas sûr si je veux suivre un chemin qui me mène à la souffrance. Mais écoutez bien ce que dit Jésus. Il ne dit pas que les outrages et la persécution sont le bonheur. Il ne dit pas cela. C'est un bonheur d'être persécuté. Il ne dit pas cela. Il dit que vous êtes heureux si vous vous trouvez sur le chemin-là. Sur ce chemin-là, car c'est le bon chemin qui mène au bon port. Regardez le verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Alors, imaginez que j'habite dans une belle maison, mais au bout d'un petit chemin de terre, non goudronné, bouilleux, est difficile à trouver. Vous venez chez moi et je vous appelle sur votre portable et je vous dis, ben, heureux serez-vous lorsque vous vous trouverez sur le petit chemin bouilleux, troué, sale, moche, étroit et désagréable. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que vous êtes presque chez moi. Alors vous comprendrez bien que si je vous dis cela, je ne fais pas l'éloge de ce petit chemin brouilleux et moche, mais en fait de ma maison. Et je vous estime heureux, pas simplement parce que vous trouvez sur ce chemin, mais parce que vous êtes en route à ma maison et ce chemin sert d'accès à ma maison. Et de même, Jésus ne fait pas ici l'éloge des outrages, de la persécution, ni de la médisance. Il dit bien, regardez-le, réjouissez-vous dans ces situations et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. La récompense est dans les cieux, c'est le ciel en fait qui est la récompense. Et c'est cela qui devrait nous faire tressaillir de joie même ici sur terre, actuellement. C'est le futur qui, dans un sens, rebondit sur le présent. C'est la réalité future qui a un effet immédiat sur notre joie ici terrestre. Ce n'est pas le chemin qui nous donne la joie, mais c'est que nous sommes sur le bon chemin qui mène au bon port. Et je trouve très significatif que la première application du premier message du premier livre du Nouveau Testament concerne notre réponse envers les injustices à notre égard de ceux qui nous entourent. Ça, c'est notre lot. Et Pierre dit, ne soyez pas surpris quand vous êtes traité ainsi. Alors, nous sommes distinctement traités en tant que disciples de Jésus-Christ. Mais les versets 13 et 14 nous disent que nous sommes aussi distinctement différents. Regardez le verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes le sel de la terre. Qu'est-ce que Jésus veut dire par cela ? Il dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Ben, nous savons que le sel pur ne peut pas perdre sa salinité. Mais le sel utilisé couramment à l'époque de Jésus, qui venait autour de la mer morte, n'était pas forcément comme celui qu'on achète aujourd'hui, souvent mélangé en fait avec des herbes et des épices. Et en tant que tel, il pouvait perdre sa saveur. Et ce n'était donc bon à rien. Il n'y avait pas de valeur dans un tel sel qui avait perdu sa saveur. Mais le point important ici, c'est que le sel était un élément étranger qu'on ajoutait à la viande pour la préserver ou pour ajouter de la saveur. Et l'importance de ce que Jésus dit ici ne se découvre pas, je pense, en identifiant tous les usages du sel, mais en notant que le sel faisait ce qu'il était censé faire parce qu'il était intrinsèquement différent de ce sur quoi il était saupoudré. Donc l'utilité du sel se trouve dans sa différence intrinsèque et inhérente. Et de même, Jésus nous dit, votre utilité sur terre, votre utilité ici sur la terre, se trouve dans votre différence de la terre. On ne préserve pas la viande en ajoutant plus de viande. On préserve la viande en ajoutant un élément qui est étranger à la viande, le sel. Et c'est le sel, parce qu'il est différent de la viande, qui dans le contact avec la viande pourra la préserver ou ajouter du goût. Vous n'êtes pas utile au monde en devenant comme le monde. Et où est le lien avec ce qu'il vient de dire concernant la persécution ? Mais je crois que le lien est ici. Si un disciple ne veut pas être distinctement traité et persécuté, eh bien, il ne va pas démontrer qu'il est distinctement différent. Jésus lui dit, si vous voulez vous fondre dans la foule, vous n'êtes plus utile à la foule. Votre utilité dans le monde se trouve dans votre distinction du monde. Je crois que c'est ça le message. Notre utilité dans le monde se trouve dans notre distinction du monde. Vous ne pouvez pas être comme la terre et le sel de la terre au même temps. Jésus l'a exprimé ainsi dans sa prière en Jean 17. Il a dit, ils, les disciples, ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Alors je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Vous voyez, c'est presque un jeu de mots, mais Jésus dit, ils sont dans le monde, tout comme le sel vient en contact avec la viande, mais ils ne sont pas du monde. Et en fait, je te prie, Père, de les sanctifier, de les préserver de ce monde et du malin. Pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. Et c'est ça qui est le plus dur pour le disciple. C'est de rester en contact avec le monde sans perdre ce qui le rend distinctif du monde. Souvent, quand on met des choses, par exemple, dans la soupe, on le mélange, ben, ils deviennent un seul, presque comme un seul ingrédient. Et là, Jésus dit, non, vous allez être en contact avec le monde, mais vous devez rester distinct et différent du monde. En 1 Pierre, chapitre 4, l'apôtre dit ceci, « C'est assez, en effet, d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. » Le monde trouve étrange que vivant dans le monde, nous ne nous précipitions pas avec eux dans la même façon de vivre. Pourquoi, en tant que mon voisin ici dans le monde, ne vivez-vous pas comme moi? Ils sont surpris, ils trouvent que c'est étrange, c'est bizarre. Est-ce que vous avez appelé bizarre avant par quelqu'un? J'ai entendu une fois le témoignage d'une femme chrétienne qui voulait témoigner aux prostituées et pour ce faire, elle a choisi de s'habiller comme une prostituée. Et ceci malgré le fait que le Saint-Esprit dit clairement en 1 Timothée 2:9 « Je veux aussi que les femmes habillées d'une manière décente se parent avec pudeur et simplicité. » C'est un peu contre cette conception du témoignage et de la vie dans le monde que Jésus parle ici. Il y a beaucoup de personnes qui vont passer des heures à visionner tous les nouveaux films, à regarder les séries télévisées, à s'informer de toutes les stars de musique, etc., afin de pouvoir, ils disent, mieux évangéliser le monde dans lequel ils vivent. Il y a des gens qui vont façonner des fêtes pour imiter le plus possible la culture païenne qui les entoure. Mais je vous demande, est-ce que c'est la sagesse de Christ ou notre propre sagesse à nous qui nous pousse à partager le plus possible avec le monde déchu? Le Saint-Esprit nous dit, je désire que vous soyez sages quant au bien et simples quant au mal. Simple, innocent. On n'a pas besoin de s'informer et de vivre dans un monde de mal. Une simplicité, une innocence, ignorance même quant au mal n'est pas une mauvaise chose. Et notre utilité dans le monde est directement liée à notre différence du monde. Ce n'est pas une sagesse qui est acceptée par tous. Mais voici ce que dit Jésus. Et quoi qu'on vous dise, on n'a pas d'impact sur le monde en imitant le monde. En fait, notre impact sur le monde diminue. Le plus qu'on devient comme le monde, le plus on perd sa saveur. Et vous dites, mais j'ai tous ces contacts. Oui, mais à quoi bon? À quoi bon? Nous sommes donc distinctement traités et nous devons rester, malgré la persécution, distinctement différents. Alors, il y a deux tentations ici. Si on ne veut pas être distinctement traité, on va, une option, on vient de parler de ça, soit essayer de se fondre un peu dans la foule et devenir comme tous les autres. Quelle est l'autre tentation? L'autre tentation, si on ne veut pas se fondre et devenir comme tous les autres, serait de se cacher de la foule. Et Jésus parle donc, troisièmement, du fait d'être distinctement visible. Parce que je crois que c'est l'autre tentation, de se cacher. Il dit, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ceci, bien sûr, est mis en contraste au début du chapitre 6. Jésus va parler de ceux qui font des prières, par exemple, ou qui donnent de l'argent, ou qui font des jeûnes pour être vus parmi les hommes. Et Jésus dit non. Si vous faites ça pour avoir une récompense vous-même, eh bien c'est tout ce que vous aurez. Je ne parle pas ici de mettre en avant notre justice propre. Mais il parle du fait que notre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Quelles sont les bonnes œuvres? Eh bien, pensez à Daniel. Pensez à Daniel qui ne cachait pas sa vie de prière. Il ne cachait pas sa vie de prière. Il arrivait au cafétéria et il baissait la tête et il priait. Malgré le fait qu'il allait être plus que moqué, il a été jeté au lion. C'est une bonne œuvre de prier le Seigneur et il ne cachait pas sa vie de prière. Et c'est ainsi que la Bible nous appelle aussi à ne pas cacher nos bonnes œuvres, ce que nous faisons pour Dieu au monde qui nous entoure. Un disciple secret n'a pas plus d'utilité qu'un disciple qui a perdu son identité distinctive. Dans les deux cas, ça ne sert plus à rien pour ceux qui les entourent. Si on est comme eux, ça ne sert plus à rien. Et si on se cache, ça ne sert plus à rien. Il faut être distinct et visible au monde. Et c'est la persécution qui nous pousse à soit perdre cette distinction, soit nous cacher du monde. C'est une réaction normale et c'est pour cela que Jésus dit, non, ne cachez pas le fait que vous soyez disciples. Laissez paraître votre amour pour Dieu. En Jean 19 et verset 38, ne cherchez pas, mais ça parle de Joseph d'Arimathée, qui était un disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs. En secret, mais par crainte des Juifs. Et c'est intéressant que même avec Joseph, le moment est venu où il ne pouvait plus cacher. Et il vient lui-même jusqu'à Pilate pour demander le corps de Jésus. Jésus avait dit en Luc 12, il a dit, je vous dis, quiconque se déclarera publiquement pour moi, le Fils de l'homme, se déclarera aussi pour lui devant le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Nous sommes appelés à être des lumières, pas comme le soleil qui brille de lui-même, mais comme la lune qui reflète et qui réfléchit la lumière après sur la terre. Nous sommes dans ce sens la lumière de ce monde. Le monde voit la lumière de Christ à travers nous et nos œuvres pour lui. Alors ne cachons pas notre lumière, mais laissons-la briller. Et que Dieu utilise nos vies pour amener des gens à le glorifier, comme il dit dans ce verset. Prions le Seigneur. Notre Père céleste, nous ne méritons pas ce rôle grandiose et d'être le sel sur la terre et la lumière dans ce monde pour Christ notre Maître. Nous savons que cette charge que tu nous donnes nous mènera certainement à être outragés, persécutés, maudits. Mais nous te demandons que face à ces difficultés, tu nous empêches de renoncer à cette distinction que nous avons à cause du fait que nous sommes tes disciples et que tu nous empêches aussi à nous cacher. Mais que chacun de nous, et si on pouvait, Seigneur, savoir le nombre de personnes qui viendront en contact avec nous, nous sommes plus d'une centaine de personnes ici et dans la semaine, nous allons tous aller dans les différentes directions. Nous allons toucher des vies de centaines, peut-être des milliers de personnes en tout. Aide-nous à être du sel et de la lumière. Ne pas avoir honte de toi et que tu nous utilises pour t'apporter plus de gloire dans ce monde déchu. Nous prions cette prière au nom de Jésus le Christ. Amen.